Eh bien, bonjour à tous et merci Stéphane de nous accueillir pour l'un de ces séminaires de rentrée qui, j'espère, va vous stimuler intellectuellement. Et nous allons parler de géopolitique, mais vous en avez déjà entendu parler avec notre collègue le professeur Colson et aussi Joseph Maila, que vous connaissez peut-être, monsieur l'ambassadeur, qui est également enseignant à l'ESSEC et qui a dirigé la prospective au Quai d'Orsay. Et donc, je ne vais pas multiplier les présentations, mais je vous propose, monsieur l'ambassadeur, de démarrer sans plus attendre avec quelques mots peut-être au pupitre. Et après, nous poursuivrons par un débat. Merci beaucoup.
D'abord, merci beaucoup à l'ESSEC pour votre accueil et votre invitation. Je suis ravi de pouvoir débattre avec une très grande journaliste et qui est aussi une très grande spécialiste et de la Russie et des États-Unis, qui sont deux pays où on s'est croisés et qui me sont aussi chers, Laure Mandeville. Je voudrais adresser mes remerciements à mon collègue et grand ami, l'ambassadeur Daniel Jouanneau, qui m'a été le premier à me permettre de venir. Mais je voudrais aussi m'adresser à vous toutes et tous, chers étudiants, car c'est un privilège pour moi de venir devant vous alors que vous commencez ce nouveau cycle d'études. Il m'a été demandé de parler pendant 15 minutes de la situation aux États-Unis. Je suis en effet un ambassadeur à la retraite, mais mon dernier poste de 2019 à 2023 était de représenter la France aux États-Unis. J'ai donc eu le privilège de travailler à la fois avec l'administration Trump et l'administration Biden. J'ai vécu des moments très intéressants pendant ces 4 années. Mais je voudrais quand même dire un mot de cette mission pour le 80e anniversaire de la libération de la France des débarquements de Normandie et de Provence et de la Victoire, dont le président de la République m'a chargé de présider le petit groupe qui prépare et qui a préparé les commémorations. Nous avons préparé la commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Normandie, puis du débarquement de Provence. Nous avons été avec la ville de Paris pour la commémoration du 80e anniversaire de la libération de la capitale de la France. Pourquoi je veux en parler? D'abord parce qu'évidemment c'est directement lié à mon expérience aux États-Unis. Nous avons accueilli les derniers vétérans, c'était notamment sur les plages de Normandie, c'était heartbreaking, comme on dit aux États-Unis. Et aussi parce que vous représentez les nouvelles générations et parce que le sens même de cette mission, c'est la transmission. Et ce que ces vétérans nous disent, c'est que le plus important pour eux, c'est de rencontrer des jeunes. Voilà. D'ailleurs, le titre à Saint-Laurent-sur-Mer, sur Omaha Beach, de la commémoration internationale que nous avons organisée, c'était « J'ai fait ça pour toi ». Et je trouve que voilà, c'est très important pour moi, après les États-Unis, d'avoir eu cette charge, que j'ai toujours d'ailleurs, puisque nous continuons le programme mémoriel et nous célébrerons le 23 novembre, par exemple, le 80e anniversaire de la libération de Strasbourg, le jour où le drapeau français a été de nouveau placé sur la flèche de la cathédrale de Strasbourg. C'est ce qu'on appelle le serment de Koufra, prêté par Leclerc et ses soldats dans les sables libyens. Tout ceci pour venir au 5 novembre prochain, à l'élection présidentielle, qui est d'ailleurs pas seulement présidentielle, mais aussi législative américaine. Donc, on m'a demandé de poser de peindre les principales lignes du tableau. Pourquoi ? Parce que c'est une élection qui a d'énormes conséquences pour les États-Unis, mais aussi pour le monde entier, et notamment pour les Européens et pour la France, évidemment, en particulier. Ces conséquences, elles sont multiples. Elles seront considérables dans le domaine de la sécurité, bien sûr, et des crises internationales, mais aussi dans le domaine économique, dans le domaine des affaires, et enfin dans le domaine des biens publics mondiaux, et notamment du climat, et des autres défis qui se posent ensemble à toute l'humanité. Et quand je dis cela, on en reparlera sans doute plus tard, je ne veux pas dire que tout va changer selon que c'est un candidat ou un autre, parce qu'il y aura d'énormes différences, mais de toute façon, il y a certaines choses en commun, parce qu'elles relèvent des Américains en tant que tels, des Européens en tant que tels. Et moi, j'ai en fait passé la plus grosse partie de ma carrière à Bruxelles et dans les affaires européennes. J'ai été 13 années en 3 fois à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne. J'étais ambassadeur en Allemagne, comme cela a été dit. Je pense que c'est aussi de cela dont il faut parler. L'élection présidentielle, tout le monde sait qui sont les candidats, qui étaient les candidats et qui sont aujourd'hui les candidats, puisque ça a changé en juillet. Et vous suivez certainement les péripéties de cette campagne. Il n'y a jamais eu de campagne électorale aussi incroyable. Toutes les semaines aux États-Unis, il se passe quelque chose. Et ça serait presque un film à suspense si, effectivement, il n'y avait pas toutes ces conséquences dont je parlais. Ce qui est important de savoir pour l'élection présidentielle, c'est que le système électoral américain est très, très particulier. Je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais je le rappelle quand même. Dans les 50 États, chaque État américain, il y en a 50, vote pour ses grands électeurs qui vont eux-mêmes voter pour le président au sein du collège électoral. Donc déjà, comme on l'a vu en 2016, un candidat peut très bien être majoritaire au plan des États-Unis en général et perdre l'élection, ça a été le cas de Hillary Clinton, parce qu'elle n'a pas eu la majorité des délégués au sein du conseil électoral, des grands électeurs. Ensuite, il faut savoir que la plupart de ces États, et ça c'est un élément de fond dans la politique américaine, une tendance de fond, ont de toute façon, on sait ce qu'ils vont voter. Et comme la plupart du temps, la plupart de ces États, il y a deux exceptions, le Nebraska et le Maine, mais enfin, celui qui gagne tous les délégués, on sait en gros que, on va dire 42, 43 États sur 50, on sait qu'ils vont envoyer des délégués républicains ou démocrates. Des grands électeurs. Alors, ça veut dire qu'en fait, l'élection va se jouer dans 6 ou 7 États. Pourquoi je dis 6 ou 7 ? Parce que par rapport aux 6 des fois précédentes, on ajoute la Caroline du Nord, où semble-t-il, les démocrates ont une petite chance. C'est un État qui a voté Trump en 2016 et en 2020. Les 6 autres, c'est le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, la Géorgie, l'Arizona et le Nevada. La Géorgie, en 2016, a remplacé la Floride, qui était traditionnellement le swing state du sud-est. Là, c'est la Géorgie qui, d'ailleurs on ne s'y attendait pas forcément, a été l'État qui a fait partie des swing states. Alors ça peut changer, il peut y avoir des surprises, mais en gros, tout va se jouer dans ces 7 États. Et dans ces 7 États, il y en a un qui est le plus important, parce que c'est lui qui envoie le plus de délégués, c'est la Pennsylvanie. Bon. Donc aujourd'hui, après le fameux débat entre les deux candidats, où Kamala Harris s'est très bien débrouillée, et de l'avis général a plutôt gagné le débat, eh bien, les sondages, en fait, sont extrêmement difficiles à interpréter. D'ailleurs, on pourrait nous dire que les sondages se sont trompés en 2020, se sont trompés en 2016, se sont trompés en 2022 lors des dernières élections de mi-parcours pour le Congrès. Mais enfin, bon, les sondages montrent que dans les 7 États en question, la course est vraiment presque à égalité. Bon, il y a des variations, je ne vais pas entrer dans les détails. Et donc, évidemment, les candidats, les deux candidats et leurs colistiers, puisque c'est un ticket, hein, donc vous avez vu que Donald Trump a choisi J.D. Vance et que Kamala Harris a choisi Tim Walz, qui représentent tous les deux des personnalités du centre, hein, de l'Ohio et du Minnesota, eh bien, ils vont essentiellement faire leur campagne dans ces 7 États ou à des endroits où ils vont pouvoir lever de l'argent. Parce qu'une campagne américaine, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut savoir que depuis une décision de la Cour suprême de 2010, qui s'appelle United Citizens, il n'y a plus de plafond pour les dépenses électorales. Ce qui a eu d'énormes conséquences sur la démocratie américaine. Donc une élection présidentielle, alors ça coûte, moi je disais $1 milliard, mais je pense que je suis encore en dessous de la vérité, parce qu'il y a une inflation incroyable. Et donc il faut lever de l'argent, et quand les candidats vont ailleurs que dans les 7 États, c'est en général pour lever de l'argent. C'est aussi pour soutenir, et j'y viens, et puis je m'arrêterai après, les candidats de leur parti aux autres, à l'autre moitié. Parce que quand un Américain vote donc le mardi de novembre, le premier mardi de novembre pour l'élection présidentielle, il vote aussi pour le Congrès. Et d'ailleurs, il vote pour plein d'autres choses, notamment au niveau de l'État, de chaque État, il peut y avoir des référendums. En ce moment, il y a beaucoup de référendums sur le droit à l'avortement, par exemple. Mais il va aussi voter pour les deux sénats, pour les représentants qui seront à la Chambre des représentants de son pays, et certains vont voter pour des sénateurs. Et ça, c'est très important, parce qu'évidemment, selon que vous êtes président à la Maison-Blanche, c'est très différent si vous êtes, peinard, parce que vous avez la majorité et à la Chambre des représentants et au Sénat, ou que vous n'avez qu'une chambre, ou que vous n'avez aucune des deux chambres. Donc, pour comprendre ce qui va se passer après le 5 novembre et le 20 janvier, l'inauguration de la nouvelle présidente ou du nouveau président, il faut évidemment savoir qu'est-ce qui va se passer en termes de contrôle du Sénat et de la Chambre. Alors, du côté du Sénat, en fait, il y a une infime majorité démocrate de 51 sièges sur 100. Malheureusement pour les démocrates, il est presque acquis qu'ils vont perdre deux sièges en Virginie-Occidentale et dans le Montana. Et donc, il est probable que le Sénat va passer chez les Républicains. Quant à la Chambre, qui a une courte majorité républicaine, seulement d'ailleurs depuis 2 ans, puisque avant c'était une majorité démocrate, eh bien les démocrates ont une chance de faire le mouvement inverse, c'est-à-dire de reprendre la majorité, mais ça dépendra beaucoup de la dynamique sur le plan de l'élection présidentielle. Si Trump est élu, il y aura derrière une dynamique sur les autres scrutins, et les républicains pourraient garder aussi la majorité à la Chambre des représentants. Et là, ça veut dire que les républicains ont tout, la Maison-Blanche, la Chambre, le Sénat, plus la Cour suprême. Il faut quand même évoquer le troisième grand pilier du pouvoir américain, parce qu'il y a 6 juges conservateurs sur 9. Si Kamala Harris est élue, la dynamique sera pour les démocrates, et ils vont sans doute reprendre, en tout cas ils ont une bonne chance dans l'absolu, de reprendre, notamment grâce à des circonscriptions qui sont pour l'instant républicaine dans l'État de New York et en Californie, de reprendre la majorité à la Chambre. Mais si Kamala Harris devient présidente, elle aura peut-être, et même sans doute la Chambre, mais elle n'aura pas forcément le Sénat. Et le Sénat, c'est très important aux États-Unis parce que c'est le Sénat qui confirme les grandes nominations politiques, y compris les ambassadeurs dans les pays les plus importants. C'est aussi le Sénat qui, par exemple, ratifie les traités. Donc voilà, ça ne veut pas dire que la Chambre des représentants n'a pas de rôle, au contraire, sur le plan législatif, ils doivent se mettre d'accord entre eux. Donc ce sont les deux enjeux, l'enjeu présidentiel, l'enjeu parlementaire, et maintenant, je vais peut-être m'arrêter là, professeur. Vous m'avez donné 15 minutes, j'ai parlé 15 minutes.
Non, vous avez.
Et donc, on va peut-être passer tout de suite à la déclinaison de tout ce que ça va entraîner, ou alors, si vous voulez approfondir, avec Laure, qui en connaît beaucoup plus que moi, et avec moi, tel ou tel aspect de l'élection, évidemment, on est à votre disposition. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Alors, ce que je vous propose, donc, vous aurez bien entendu du temps pour poser des questions. Donc, vous pouvez d'ores et déjà les préparer. Et c'est un débat entre nous, mais avec vous aussi. Hein, ce n'est pas dans un seul sens. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle peut-être d'abord des sujets de politique intérieure américaine et qu'après, on élargisse, qu'on parle un petit peu de la société américaine et qu'après, on élargisse un petit peu sur les questions de politique étrangère. Donc je me tourne peut-être d'abord vers Laure Mandeville, qui a été, donc, comme le disait Stéphane, 8 ans correspondante aux États-Unis, qui va régulièrement aux États-Unis, qui anime d'ailleurs les rencontres Tocqueville en Normandie, dans la maison de Alexis Tocqueville, dont je ne vous ferai pas le déshonneur de vous dire que vous vous rappelez qui c'est. Laure, toi qui as vraiment sillonné les États-Unis et en particulier dans les années pré-Trump, où j'étais d'ailleurs moi-même également à Washington, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette société américaine aujourd'hui, en 2024, 8 ans donc après l'arrivée de Trump, que nous avons vu un peu débouler d'une manière pas vraiment prévue, hein, comme le disait M. Étienne. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Comment est-ce que dans ton dernier voyage, tu as perçu ce phénomène? Et qu'est-ce que ça signifie aussi pour le parti républicain, pour tous ces gens qui finalement se retrouvent derrière ce personnage qui est plutôt représentant du Trumpisme que du Grand Old Party, comme on dit, et qui a un peu refaçonné, on peut dire, le parti républicain?
Merci beaucoup, Philippe, de ta question. D'abord, je voulais vous saluer tous chaleureusement et dire que j'étais très heureuse d'être avec vous tous pour votre rentrée, en fait, à l'ESSEC, et que je remercie l'ambassadeur Joadeau d'avoir pensé aussi à moi pour donner un peu la réplique à Philippe Etienne. C'est un grand plaisir à la fois d'être en sa compagnie parce qu'on se connaît de très longue date. On a arpenté il y a des années, quand j'étais toute jeune journaliste et lui tout jeune diplomate, la province russe, alors qu'elle... Nous espérions tous qu'elle était engagée dans un processus de changement positif et qu'une énorme euphorie planait encore au-dessus de la terre russe. Et on a vu à quel point nos espoirs avaient été déçus. Mais c'est vrai que, et aussi, je suis très heureuse d'être aux côtés de Philippe, que je connais de mes années américaines. Nous avons beaucoup débattu et échangé quand nous étions tous les deux à Washington, et depuis d'ailleurs. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est vrai que ce qui est, je crois, important de mon point de vue, c'est que cette élection américaine, elle se tient dans un moment qui est d'une très grande gravité, une très grande gravité géopolitique, parce que le monde est en feu, l'Occident et donc les Américains qui sont un peu le reste, malgré tout, la puissance leader du monde occidental, et sont confrontés, l'Occident est confronté à des nouveaux monstres géopolitiques extrêmement dangereux qui ont pour ambition de déstabiliser en fait l'Occident et de dicter de nouvelles règles du jeu. Et voilà, c'est donc dans ce contexte que se tient cette élection, d'où son importance, parce que la question qui se pose, c'est qu'est-ce que fera les États-Unis dans ce nouveau, les États-Unis, soit de Trump, soit de Kamala Harris, dans ce nouveau contexte. La deuxième chose, en fait, c'est que depuis que Trump a surgi, a déboulé, comme l'a dit Philippe, sur la scène politique américaine, on a le sentiment que les Américains sont entrés dans une période d'hystérie politique. C'est-à-dire que plus rien ne se passe comme avant. Trump a complètement révolutionné les règles du jeu politique, il a imposé un style, mais il a aussi soulevé au-delà de son style, et j'insiste, il faut regarder Trump au-delà de sa personne, de sa vanité, de ses foucades, de ses folies, il faut regarder aussi le phénomène politique Trump, c'est-à-dire les thèmes qu'il a soulevés, et en fait ce phénomène Trump, cette volonté de pointer devant les élites, de leur dire « mais les amis, vous vous êtes complètement trompés, il y a la moitié d'un pays, il y a un pays profond qui n'est pas d'accord avec la manière dont vous gérez les affaires de ce pays. » Un pays profond qui dit « on veut que ça change sur plein de sujets ». Et donc Trump, c'est l'émanation en fait d'une révolte populaire très profonde. Et pourquoi je dis qu'elle est très profonde ? Parce que malgré toutes les bizarreries, les forfanteries de Donald Trump, il est toujours dans la course 9 ans après son apparition sur la scène politique. Et ça, en soi, c'est très important parce que ça veut dire que c'est un phénomène durable, en tout cas qu'il y a une colère durable qui n'a pas été résolue. Et elle n'a pas été résolue notamment parce que les élites politiques n'ont pas été capables d'apporter une réponse suffisante et suffisamment construite, suffisamment apaisée, pertinente au défi que cet homme inclassable, ébouriffant, apporté en fait dans le champ politique. Ce qui s'est passé et que moi j'ai vécu quand j'étais sur place, quand il a émergé en 2015-2016, c'est que en fait l'ensemble des élites politiques, républicaines, démocrates, médiatiques, culturelles, intellectuelles, ont considéré que Trump était inacceptable a priori, c'est-à-dire qu'on ne devait pas parler avec lui, on ne devait pas le prendre au sérieux, on devait le mettre à part, et que ça suffirait, c'est-à-dire que les attaques contre la personne de Trump, ses mauvaises manières, allaient permettre de régler le problème et que Hillary Clinton qui lui faisait face serait finalement élue. Et moi, je me souviens que Philippe Etienne a parlé de l'idée d'une bulle politique qui existerait. Oui, il y avait une bulle politique autour des élites qui ont fait qu'ils n'ont absolument pas vu venir le personnage et qu'en réalité, quand on sortait en fait de la bulle médiatique, de CNN, du New York Times, du Washington Post, de toute la presse américaine qui a soutenu en fait Hillary Clinton, à plus de 90% des médias aux États-Unis ont soutenu Hillary Clinton. Donc vous imaginez que en réalité, quand il a gagné, c'était une stupéfaction, une sidération en fait de ces élites. Mais ça, on le sentait quand on sortait de cette bulle. Et moi, je me souviens que pendant la dernière ligne droite de la campagne, je suis allée justement dans les États swing dont vous a parlé Philippe Etienne, ces États clés qui vont décider du résultat de l'élection. À l'époque, l'Ohio était un État considéré comme un État swing, donc qui pouvait basculer soit d'un côté, soit de l'autre. C'était la même chose pour la Pennsylvanie. Et j'avais fait une sorte de traversée avec d'ailleurs une amie afro-américaine, républicaine. On s'était engagés là-dedans, dans cette traversée. Et nous avions été stupéfaites de constater que dans la population, disons, moyenne, les gens ne pensaient pas du tout comme pensaient le monde journalistique, les élites politiques. Et que donc, pour eux, Trump était un personnage, certes, avec une grande gueule, certes, qui les embarrassait, mais qui était, certes, qui pouvait dire des choses inexactes, voire fausses, mais qui était porteur de ce qu'ils estimaient être des vérités fondamentales que les autres ne voulaient pas dire. Et donc, c'est pour ça, parce qu'il était capable de servir de bélier à leur révolte, voyez, c'est ça, en fait, d'être leur char pour avancer, qu'ils l'ont plébiscité et qu'il a gagné cette élection contre toute attente. Bien sûr qu'il l'a gagné de manière très serrée, mais il l'a gagné quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que 9 ans plus tard, il est toujours là. 9 ans plus tard, moi, quand je suis rendue au mois de juin aux États-Unis, donc avant que Biden ne fasse ce débat catastrophique qui a tout changé, il était en tête dans tous les sondages et tous les gens que je rencontrais me disaient il va gagner. Les cartes ont été rebattues par une série d'événements absolument spectaculaires, de rebondissements du débat Biden-Trump qui a montré le début d'une sénilité en fait du président américain qui avait été entre parenthèses caché par les démocrates et par son équipe et par les médias américains qui étaient au contact. Donc il y a eu quand même un problème politique qui maintenant est passé sous silence parce qu'en fait il faut oublier tout ça pour pouvoir vendre la nouvelle candidate. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui les démocrates mettent en avant une candidate qui n'a pas été démocratiquement choisie parce que justement ils avaient gardé Biden pendant des mois en pensant que ça allait passer. Et comme ça ne passait plus, il a fallu dans l'urgence mettre en scène Kamala. Et ce qui est très intéressant, c'est que les mêmes gens qui aujourd'hui vendent la personnalité de Kamala Harris comme quelqu'un de formidable, pendant les mois qui ont précédé, avaient justifié le maintien de la candidature de Biden malgré les faiblesses qui étaient déjà visibles par le fait qu'elle était trop mauvaise pour être une bonne candidate et donc qu'il valait mieux garder Joe Biden. Aujourd'hui, on a changé complètement. Il y a un forcing pour la présidente présentée comme une candidate de talent. C'est d'ailleurs pas exclu, mais c'est vrai qu'il reste. Elle a montré des capacités à mobiliser extrêmement rapidement le Parti républicain, à s'imposer d'une manière assez convaincante pendant sa convention, mais elle n'a toujours pas dévoilé qui elle était vraiment. Il reste d'énormes questions en fait sur ses intentions, sur le fond de sa personnalité, sur ses qualités, sur ce qu'elle a, comme on dit dans le langage journalistique, dans le ventre, le jour où elle se retrouve dans une situation de crise majeure face à la Chine, face à la Russie. Que fera Kamala Harris? Je pense que c'est très difficile de le dire aujourd'hui. Vous me direz, c'est très difficile de dire ce que fera Trump. C'est vrai. Et donc là, sur ce plan-là, je vous dirais que pour avoir travaillé sur la personnalité de Trump depuis maintenant, depuis 2015, donc vous voyez, ça fait 9 ans que moi je m'intéresse à ce personnage. J'ai écrit un livre sur lui et puis un autre où j'en parle énormément. C'est vrai qu'il y a évidemment des éléments complètement contradictoires dans ce personnage, parce qu'en fait, il a fait sauter les frontières entre ce que c'est que le Parti démocrate et le Parti républicain. Sur certains sujets, il est plus proche de thèmes qui étaient avant des thèmes de gauche, par exemple sur le protectionnisme, sa volonté de protéger les frontières, donc de mettre des tarifs, de relancer l'industrie, etc. Sur d'autres thèmes, comme l'immigration, il est très clairement beaucoup plus à droite. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il a commencé aussi de créer autour de lui un tout nouveau parti, comme l'a dit Philippe, et c'est très intéressant, puisque le Parti républicain, au lieu d'être un parti aujourd'hui plutôt des élites, du business, etc., est devenu un parti d'une coalition, je dirais, des classes populaires. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez à la fois toutes ces classes populaires blanches qui ont perdu, qui se sentent orphelines de l'ancien Parti démocrate, parce qu'ils pensent que le Parti démocrate est parti beaucoup trop à gauche sur des questions sociétales, sur des questions justement tous les sujets de transgenre, de LGBT, de tout ça. Ils ne se reconnaissent plus dans ce parti, ils sont encore attachés à la famille traditionnelle, ils sont souvent croyants, ou ils sont en tout cas pas en accord avec la ligne qui est celle aujourd'hui de la base du Parti démocrate. Pour le reste, Trump... il est à cheval sur toutes ces lignes dont je vous parlais à l'instant. Ce que je peux dire, je vais peut-être m'arrêter là en fait, parce que vous avez sûrement.
On va continuer. Je voulais simplement peut-être demander à Philippe Etienne, avant qu'on aborde les questions de politique étrangère notamment, comment est-ce que vous voyez les deux partis actuellement ? Là, on a par exemple une situation où, comme le disait Laure, il y a 8 ans, les sénateurs ou les candidats potentiels à la présidence combattaient Trump. Mais aujourd'hui, on a un Marco Rubio, on a les autres membres du Parti républicain qui autrefois avaient des aspirations pour prendre la Maison-Blanche. Aujourd'hui, ils ont l'air d'être complètement annihilés par le phénomène Trump. La conquête du Grand Old Party par le mouvement trumpiste qui s'appelle MAGA, comme vous savez, Make America Great Again, a l'air d'avoir neurasthénié les membres du Parti républicain, qui en plus sont conscients qu'il peut les emmener à la victoire, puisque effectivement, comme vous le disiez, non seulement le Sénat, mais potentiellement les États, la Chambre des représentants. Et puis par ailleurs, sur le Parti démocrate, on a effectivement une candidate qui était vice-présidente, donc les vice-présidents sont souvent un peu discrets. On ne sait pas très bien quoi en penser. Elle a un certain charisme. Enfin, il y a 4 ans, il ne l'avait pas choisie, puisqu'elle était candidate à la primaire. Elle n'avait pas du tout passé les tests, comme on dit dans les bonnes écoles. Donc j'aimerais bien avoir votre point de vue sur ces deux partis. Comment vous les voyez émerger dans 3 mois à l'issue de ces élections ?
Ah, ce sont des questions auxquelles je pourrais prendre beaucoup de temps pour répondre, parce que j'ai observé tout ce petit monde, non seulement pendant les 4 ans où j'étais à Washington, mais pendant les 2 ans à l'Élysée avant, où j'ai travaillé avec, vous savez, les visites de Trump à Paris le 14 juillet. Enfin, tout ça, j'ai vécu en direct. Et on pourra y revenir si vous voulez. Du côté du Parti républicain, comme l'a dit Laure, et comme vous l'avez dit, Philippe, le parti a complètement changé. Bon. Il ne faut pas dire que c'est Trump qui l'a complètement changé. En fait, Trump, effectivement, a enfourché une tendance qui avait commencé, je crois, dans les années 90 et qui est une transformation radicale du parti de Ronald Reagan. Et qui s'est presque achevée, rien n'est jamais achevé parce que les transformations se continuent avec Trump. Trump était démocrate. Vous savez, il était inscrit au Parti démocrate. Je me souviens d'une fois, d'ailleurs, lors d'un débat public où Trump avait dit, ou je ne sais pas, une intervention à la télé, parce qu'on parlait des émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd, qui était tué par un policier à Minneapolis. Et donc, on parlait beaucoup de la race, etc. Et il a dit quelque chose du genre, « Ah oui, on vient de me dire qu'en fait, Abraham Lincoln était républicain. » Comme s'il le découvrait. Donc, ça prouve qu'il y a une espèce d'ignorance, enfin, en tout cas, ou de non prise en compte par Trump lui-même de toute l'histoire du Parti républicain. Et ça montre bien cette transformation. Et en fait, par rapport à cette transformation, qui est aussi une transformation des États-Unis et de la société américaine, sous différentes contraintes, hein, notamment la transformation économique et sociale, je donnerai un exemple aussi, le Parti républicain est devenu ce parti qui a des cris clairs et dont la sociologie a complètement changé par rapport à avant. Et donc, dans le Parti républicain aujourd'hui, vous avez plusieurs couches. Vous avez d'abord alors Trump a le sens de la formule, hein. Donc il y a les Never Trumpers et puis il y a les RINO, Republicans in Name Only. En fait, ce qu'il appelle les RINO, c'est ceux, les vrais républicains d'avant, qui ne sont pas républicains du nouveau Parti républicain. Et donc il y a des gens qui sont partis. Il y a pas mal de gens qui soutiennent Kamala Harris. Et d'ailleurs, il y a même 110 ou 115 responsables de la sécurité nationale, donc pas n'importe qui, hein, qui ont eu affaire avec la sécurité nationale des États-Unis, qui viennent de signer une lettre disant « on endosse Harris parce que Trump est un danger public, en gros, pour les États-Unis ». Moi, je me souviens notamment de la lettre de démission fracassante de l'un de ses ministres de la Défense, qui a été publié et qui disait à Trump, en gros, vous ne respectez pas nos alliances, nos alliés, c'est très dangereux pour la sécurité des États-Unis. Ensuite, c'est vrai qu'il y a, comme vous l'avez dit, des politiques républicains, et vous avez cité Marco Rubio, Ted Cruz, des gens qui s'étaient prononcés contre Trump en 2016, qui étaient candidats à l'investiture contre Trump, et que Trump... Ted Cruz, oui, il les a traînés dans la boue, il s'est moqué d'eux. Bon. Et là, maintenant, vous avez Lindsey Graham, le sénateur de Caroline du Sud, que je connais bien aussi, qui s'est complètement... Alors, ces gens-là, je pense, ont deux... D'abord, il y a trois choses pour eux. C'est-à-dire le gros des élites du Parti républicain. Premièrement, et ça, c'est le plus important, la population, les militants, et la base militante, c'est MAGA. Donc, on doit suivre. Deuxièmement, quelque part derrière leur tête, ils disent, Trump, malgré tout, il n'est pas éternel. En fait, ces gens-là espéraient qu'il ne reviendra pas. Mais comme l'a dit Laure, ils se sont trompés parce qu'il est revenu 9 ans après. Et troisièmement, ils se disent, alors ça, c'est peut-être un prétexte, mais ils essayent quand même, ils se disent, il vaut mieux être avec lui et faire quelques efforts pour éviter... des trop grosses, voilà. C'est typiquement, en matière de politique étrangère, certains sénateurs que j'ai cités sont là dans ce rôle. Mais le Parti républicain, lui, pour l'instant, il est là où il est, c'est-à-dire très, très différent du Parti de Reagan. Et comme l'a dit Laure, il a piqué des thèmes au Parti démocrate. Et donc j'en viens aux démocrates. Parce que le Parti républicain était un parti sur deux sujets fondamentaux, aux antipodes de ce que représente maintenant Trump. Premièrement, c'était un parti qui acceptait les interventions militaires à l'étranger. Il en a même décidé certaines funestes, hein, par exemple l'invasion de l'Irak. Deuxièmement, c'était un parti libre-échangiste qui pensait que le commerce, dans cette école on peut le dire, était bon pour l'économie en général. Sur ces deux points, Trump, mais encore une fois, ce n'est pas seulement Trump, l'évolution, mais beaucoup Trump, a complètement inversé. Et il a pris les positions de qui ? Je crois que Laure l'a aussi dit. Il a pris les positions du Parti démocrate. Et les démocrates, en 2016, se sont retrouvés complètement à contre-courant, parce que sous Obama, les États-Unis avaient, par exemple, négocié le traité de libre-échange transpacifique, qui est un énorme enjeu pour les États-Unis, pour l'économie américaine. Ils avaient négocié le NAFTA, le traité avec le Canada et avec le Mexique. Et donc, Trump est arrivé, il a dit rien de tout ça, sauf que le NAFTA a été renégocié, c'est devenu le USMCA. Il a été renégocié avec les deux partenaires. Et il a été accepté en bipartisan sous le mandat Trump. C'est intéressant de ce qui va devenir si Trump revient d'ailleurs, parce qu'il y a une clause de révision en 2026. Et tout ça, ça a d'énormes effets économiques.
Et bien sûr, sur les interventions militaires à l'étranger, bah, Trump a dit plus un seul soldat dehors. Et c'est lui qui a décidé le retrait militaire d'Afghanistan. Et qui l'a mis en œuvre, Biden, avec les scènes du 15 août 2021 à Kaboul. Enfin bon, les scènes catastrophiques qui collent à l'image de l'administration Biden-Harris. Et donc, quand Joe Biden a été élu, lui, comme il s'appelle, le gars de Scranton, c'est-à-dire qui s'est présenté comme le type issu des classes, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est issu de classes moyennes inférieures de Pennsylvanie, il a dit aux Américains, mais Trump, c'est un milliardaire, il représente pas les classes ouvrières et moyennes, c'est moi le gars Joe de Scranton. Et donc, le pouvoir démocrate depuis l'élection de Joe Biden n'a qu'un seul objectif, c'est reconquérir cet électorat. Et donc, ils sont complètement revenus à leur politique qui était devenue celle de Trump. Et il n'y a plus personne dans les deux grands partis américains qui défend le libre-échange. Ça, c'est très frappant. Et il n'y a plus personne qui défend l'envoi de troupes américaines à l'étranger. Alors, l'envoi de troupes américaines à l'étranger, on peut à la limite comprendre après les débâcles en Irak, au Vietnam. Enfin, bon, le mauvais souvenir du Vietnam et ce qui s'est passé en Afghanistan. Enfin, quand je parle de débâcle, d'ailleurs, pour l'Irak, il faudrait qualifier, c'est pas tellement une débâcle en Irak, mais en Afghanistan, ça s'est terminé sur une image de débâcle. Et il y a eu ensuite une course qui est maintenant au cœur de l'actuelle campagne électorale pour reconquérir cet électorat qui fait la différence dans les États de ce qu'ils appellent le Blue Wall, le mur bleu, en Pennsylvanie, dans le Midwest, et notamment au Wisconsin et au Michigan. Et donc maintenant, on a deux partis qui se battent sur les mêmes idées. Et donc, là où on présente toujours ces deux candidats et ces deux partis comme totalement opposés l'un à l'autre, c'est vrai sur beaucoup de sujets, et on va y revenir, notamment en termes de politique étrangère, sur le système multilatéral. Mais en même temps, pour des raisons intérieures et aussi parce qu'il y a quand même un éléphant dans la pièce, dont on va peut-être dire le nom, il y a entre-temps un énorme défi qui est survenu à l'est des États-Unis, à l'ouest et à l'est d'ailleurs, enfin à l'est pour nous, à l'ouest pour eux, c'est la Chine. Et donc l'évolution, l'émergence de la Chine est un facteur aussi qui a complètement fait changer les politiques américaines. Parce que l'une des choses qui a enlevé tout appétit pour le libre-échange, c'est d'une part c'est l'évolution de la scène politique intérieure américaine, mais c'est aussi les effets de l'adhésion qui a été décidée sous Clinton de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce.
Juste peut-être encore un dernier mot sur la politique intérieure pour Laure. Est-ce que Kamala Harris peut être éventuellement considérée comme trop à gauche, trop élitiste, trop californienne, et est-ce que ça peut être un handicap pour elle dans ces prochaines semaines? Parce que c'est vrai qu'alors elle a un candidat à la vice-présidence dont on peut dire quand même un mot, qui est gouverneur de Minnesota, Tim Walz, qui est quelqu'un d'intéressant. Et puis deuxième question, qu'est-ce qui va se passer le lendemain de l'élection, enfin le lendemain de l'entrée en fonction plutôt du président, si c'est Donald Trump? Il a dit qu'il serait dictateur pour 24 heures, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle serait la différence entre lui et Kamala Harris?
Oui, merci Philippe. Est-ce que je peux juste dire deux ou trois choses pour aller un peu dans le sens de Philippe Etienne et rajouter... parce que c'est quand même très important, sur le NAFTA, c'est vrai que donc cet traité de libre-échange, comme l'a très bien expliqué Philippe Etienne, c'était très très important, c'est une révolution c'est vraiment une révolution que Trump apporte, pour le coup, c'est novateur, ça n'a pas commencé avant, c'est-à-dire qu'avant les deux parties était libre-échangiste, et c'est vrai qu'il faut quand même dire que si vous voulez, il faut remonter un tout petit peu en arrière, en 1991, au moment où le communisme, vous n'étiez pas né bien sûr, mais c'est le communisme s'effondre, et à partir de là, c'est une victoire totale de l'Occident, du modèle américain, et donc il y a une espèce de vertige du succès. On croit que voilà, ça va être la globalisation heureuse, tout va super bien se passer, on va ouvrir les frontières, on va commercer, et le jeu sera win-win, gagnant pour tout le monde. En réalité, ce qui se passe, et que ne voient pas ces élites qui se lancent, donc, je dirais, tête baissée dans ce phénomène de globalisation, c'est que c'est win-win pour ceux qui sont en haut de l'échelle, mais ce n'est pas du tout win-win pour les gens qui se trouvent dans les pays périphériques, aussi bien dans la province française que dans les pays, dans les provinces britanniques qui ont voté pour le Brexit, et que cette fameuse classe, ces fameuses classes populaires et classes moyennes américaines qui vont subir un déclassement hyper important avec le départ de toutes leurs industries, etc., etc. Et donc Trump, en fait, pourquoi il surgit ? Parce qu'il, en fait, il prend en compte un pays qui a été oublié, oublié de la globalisation, oublié de la politique, et c'est pour ça qu'il gagne. Et c'est pour ça que ce thème du NAFTA, où il dit « je vais vous protéger, je vais vous redonner une industrie, ce pays qui a été massacré par des élites qui n'en avaient rien à faire de vous, je vais le ramener, je vais le ressusciter, etc. » Et effectivement, Biden dit « mais moi aussi je vais le faire, et je vais le faire mieux, parce que moi je le ferai de manière sérieuse. » Et donc il lance des tas de projets pour essayer de revitaliser l'Amérique. Donc c'est vrai qu'il y a une concurrence aujourd'hui pour cet électorat. Ce que je dirais aussi, c'est que dans ce parti des classes populaires que crée Trump, ce qui est complètement nouveau, c'est qu'il amène à lui l'électorat des minorités raciales, et notamment minorités latino, et une partie, pour l'instant minoritaire et pas importante, mais quand même qui grandit de l'électorat noir. Et ça, c'est très important parce qu'il casse complètement cette idée que c'est juste les Blancs, que Trump, c'est juste les Blancs qui veulent revenir en arrière dans une Amérique raciale, raciste, etc. L'arrivée, en fait, du côté de Trump et la montée d'un électorat, notamment latino et noir, qui dit « nous, on est du côté de Trump parce qu'on veut l'Amérique avant tout, mais pas mais pas une approche racialiste et identitariste en fait de la politique. On ne veut pas être défini par une case, on ne veut pas être défini par une case noire, une case blanche, une case gay, une case transgenre, etc. On est tous des Américains. Et en fait, au fond, ce qui résume le cœur de cible de Trump, c'est America first, c'est-à-dire on est américain. Donc on défend l'Amérique sur le plan commercial, on défend le fait d'être américain contre les identités qui étaient au contraire mises en avant par les démocrates. Donc là, c'est vraiment une ligne de fracture entre les deux. Et puis, ça a été dit aussi, mais je le redis, c'est l'interventionnisme, c'est-à-dire pourquoi il est contre les guerres longues, non seulement parce qu'elles n'ont pas réussi, échec sur toute la ligne en Irak, échec sur toute la ligne en Afghanistan, où les talibans sont revenus au pouvoir dans des conditions absolument assez consternantes et terrifiantes, et en plus où, dans des conditions de telle faiblesse de l'Amérique que ça a encouragé Poutine à attaquer en Ukraine. Ça, c'est beaucoup en fait d'analystes russes le disent, mais il le fait parce qu'il estime que l'intervention, l'implication excessive de l'Amérique à l'étranger, dit Trump, on nous exploite. En fait, on exploite notre générosité, on s'occupe de tout le monde, on défend toutes les alliances, on défend tous les États, mais où sont, par exemple, les Européens? Pourquoi ils ne payent pas pour leur défense? Pourquoi c'est nous qui devons payer 70% du budget alors qu'ils sont au moins aussi riches que nous quand vous regardez l'Union européenne, etc. Donc toutes ces questions que les autres présidents, Obama, avaient commencé timidement à poser, mais pas trop, mais poliment, et ben lui, il les a posées brutalement et de manière tout à fait brutale, et il continue de le faire dans ses meetings en disant « si vous ne payez pas, ben vous pouvez aller chez Poutine et je vous défendrai plus », etc., avec la brutalité et le style qui est le sien. Donc ça, mais pour en venir maintenant à la question de Philippe, je dirais que Kamala Harris, est-ce qu'elle est trop à gauche? Certainement que c'est en tout cas un thème que utilise la campagne Trump. Vous voyez que Trump, dans ses meetings, dit « camarade Kamala ». Donc lui, il essaie de la montrer comme une communiste très à gauche, etc. Sur le plan économique, je ne suis pas sûre que ce soit très convaincant comme critique. Sur le plan sociétal, c'est vrai qu'elle s'était engagée sur pas mal de fronts. Par exemple, elle avait apporté son accord à l'idée d'un définancement de la police des frontières, Donc évidemment, elle apparaît comme ayant été faible sur l'immigration, alors qu'elle était chargée effectivement d'avoir des avancées sur ce sujet. Donc c'est exploité à fond, évidemment, par les Républicains. D'autres questions, elle est considérée quand même comme à gauche, elle vient de Californie, mais je ne suis pas sûre que ce soit complètement vrai. Moi, je la vois plus comme une opportuniste. Et d'ailleurs, ce qu'elle vous montre aujourd'hui, c'est qu'elle est en train de se recentrer à grande vitesse. Et sur certains sujets, elle dit aujourd'hui un peu le contraire de ce qu'elle disait il y a encore 6 mois.
Je crois que Philippe voulait dire quelques mots.
Ouais, il se trouve que j'ai organisé la visite de Kamala Harris en France en 2021 et j'ai jamais compris pourquoi, y compris d'abord dans son propre parti, on tapait sur elle en disant qu'elle était complètement nulle. En fait, elle n'est pas du tout nulle. Hein. Mais c'est quelqu'un qui, moi, c'est pas tellement le fait qu'elle soit à gauche, c'est ce que vient de dire Laure. Parce qu'en fait, Kamala Harris, elle a pris ses positions de gauche quand elle était candidate à l'investiture démocrate en 2020. Contre Joe Biden, qu'elle a d'ailleurs accusé très fortement dans un débat de l'investiture sur les thèmes de la race et les discriminations. Et en fait, elle voulait attirer dans cette primaire démocrate les électeurs démocrates de gauche. Mais en fait, elle, avant, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a été procureure élue, hein, parce que les procureurs sont élus aux États-Unis, dans le district de San Francisco, puis procureure générale de Californie, puis sénatrice de Californie. Elle a des connaissances en Californie avec le business, la tech, évidemment, comme tout politique de Californie. En fait, ses positions, aujourd'hui, la presse américaine a compté 12 points, et pas des petits points, hein, l'interdiction de la fracturation hydraulique pour exploiter les hydrocarbures, la dépénalisation des immigrants illégaux pour qui franchissent la frontière de manière illégale, l'assurance santé totalement publique au lieu d'être en partie privée publique. Il y a 12 points comme ça, et elle a complètement changé d'avis, comme l'a dit Laure. Et alors là, elle a eu, évidemment, les journalistes ont quand même demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et son staff, enfin, ses porte-parole avaient commencé à dire elle a été 3 ans vice-présidente, c'est l'exercice du pouvoir. Et elle a trouvé la formule, mais mes valeurs n'ont pas changé. Et Trump, dans le fameux débat qu'il a perdu contre Harris, il a fait l'erreur. Tous ses conseillers lui avaient dit, mais c'est là-dessus qu'il faut l'attaquer. Et en fait, elle l'a provoqué, il est tombé dans beaucoup de panneaux. Mais à la fin, il avait quand même en tête ce que ses conseillers lui avaient dit. Et ses derniers mots, c'était pour dire, mais tout ce que vous voulez faire maintenant, pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis 3 ans quand vous êtes vice-présidente ? Et c'est effectivement les deux vulnérabilités de la candidate du Parti démocrate, mais qui pour l'instant a essayé je dirais qu'elle n'a pas été totalement inefficace, même si c'est très difficile objectivement, se présenter comme la candidate de l'avenir avec des positions différentes de celles qu'elle avait lors de l'investiture démocrate la fois d'avant, et sans assumer totalement, tout en assumant les 3 ans et demi de l'administration Trump-Harris. Donc c'est quand même assez compliqué pour elle. Tout en prenant des positions, en développant des propositions, en se présentant comme là, par rapport à Trump, qui est beaucoup plus vieux qu'elle, il y a une inversion du paradigme, la personne de l'avenir. Voilà, c'est un peu ça la campagne électorale. Et la question, c'est est-ce qu'assez d'électeurs indépendants ou hésitants aux États-Unis seront convaincus par elle et voteront pour elle à la fin ou pas ?
Elle peut toujours mettre en exergue le fait qu'elle n'était que vice-présidente et qu'effectivement, le vice-président, traditionnellement, est un peu en retrait. Mais bon, Trump, évidemment, il appelle Joe Biden son patron, your boss. Donc, elle est quand même liée, elle fait partie du cabinet du président en tant que vice-présidente. Peut-être l'heure tourne, on va peut-être parler un tout petit peu des questions de politique étrangère et des conséquences que cette élection pourrait avoir. Puis après, je vous passerai la parole dans quelques minutes. Donc, préparez vos questions. Peut-être on commence avec Laure. Comment est-ce que tu vois les premières décisions d'un président Trump, s'il était élu, et les conséquences pour l'Europe, pour les grandes crises mondiales que tu suis de près ?
Alors, c'est un sujet complexe. Je dois dire que j'ai été, moi, aux États-Unis, en fait, cet été, et l'une des pages, je devais faire une sorte de série sur Trump, et plus sur les réseaux, sur les intentions, sur tout ça. Et j'ai rencontré pas mal de ces stratèges. Et donc, je dirais que il y a une scission entre deux groupes autour de Trump. Bon, déjà, il y a la rhétorique. Il faut distinguer sur la politique étrangère la rhétorique de Trump, parce que Trump, en fait, peut dire tout et son contraire. C'est déjà ce qu'il avait fait en 2016. Et ce qu'il fait après, c'est en général pas la même chose. Et donc, aujourd'hui, évidemment, ceux qui sont complètement contre lui le présentent comme un personnage extrêmement dangereux, c'est-à-dire qui, en gros, se retirera de l'OTAN, va se lancer dans une politique complètement isolationniste, se retirer des affaires, va vendre, va brader en fait l'avenir de l'Ukraine, arrêtera l'aide, se couchera devant les dictateurs, et donc voilà, ça sera ça à peu près. C'est à peu près le point de vue qui est présenté, je dirais, assez communément dans les journaux, y compris les journaux français, etc. Moi, j'ai une vision un peu différente de ça. Je pense d'abord qu'il y a deux équipes et deux impulsions contradictoires au sein du monde de Trump et même dans sa tête probablement. Vous avez d'un côté l'impulsion, je dirais, il faut arrêter, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, de s'engager à tort et à travers dans des conflits qui ne nous concernent pas. Notre pays est presque en ruine, il faut qu'on le reconstruise, etc. Ça, en fait, c'est quelque chose qui est déjà très profond dans son électorat. C'est-à-dire que les gens sont fatigués de ces guerres longues. Ils ont vu qu'elles n'avaient pas bien fonctionné, qu'elles avaient ramené beaucoup de gens invalides, etc., aux États-Unis, mais peu de résultats, puisque regardez par exemple l'Afghanistan, ils sont restés 20 ans, et les talibans étaient là quand ils sont arrivés, les talibans sont là quand ils sont repartis, ont repris le pouvoir. Donc c'est pas concluant, donc il y a ça, mais sinon il y a deux équipes, il y a des gens qui incarnent ce mouvement MAGA, c'est-à-dire justement qui incarnent cette pulsion plutôt isolationniste, on se retire, on se lave les mains, l'Ukraine c'est tous des corrompus, après tout c'est une guerre locale, ils ont qu'à s'entendre avec les Russes, etc. Ça c'est une chose, et c'est par exemple J.D. Vance, son candidat à la vice-présidence. Mais vous avez aussi tout un camp autour de Trump qui n'est pas du tout comme ça. Et je dirais, par exemple, c'est la majorité des élus républicains, notamment des sénateurs républicains qui sont très influents en politique étrangère, qui joueront un rôle important, c'est d'une partie des élus de la Chambre aussi significative. Et puis, je dirais, de l'essentiel de la communauté de sécurité nationale républicaine, qui est en réalité sur une approche beaucoup plus réganienne sur ce qu'on définit dans son entourage comme la paix par la force. C'est-à-dire qu'au fond, ils disent Trump, il parle beaucoup, mais en réalité, il a le sens du rapport de force, et ce que n'ont pas su faire les démocrates, parce que les démocrates, ils veulent toujours négocier tout, ils sont toujours dans... ils hésitent toujours à brandir la dissuasion, à aller vers une possibilité d'escalade, parce qu'ils ont toujours peur que ça leur échappe, etc. Et donc, eux, ils disent, nous, on va être réganiens, on va rétablir un rapport de force, on va réarmer, on n'hésitera pas à prendre des décisions très dures pour que nos ennemis se tiennent à carreau. Donc, par exemple, ils sont extrêmement critiques de la politique de Biden vis-à-vis de l'Iran. Ils estiment que Biden a été d'une grande faiblesse, qu'il a laissé les provocations s'installer, etc. Ils estiment que sur la Chine, ils seront plus durs que ce qui se passe. Et c'est ce qu'ils disent, en tout cas. Comment ? Bien sûr, c'est des enchères. Et puis, sur la Russie, ils disent Poutine aura beaucoup plus peur de l'imprévisibilité de Trump, et Trump va mesurer le rapport de force. On ne sait pas s'il donnera quelque chose, mais en tout cas, il va essayer de rétablir un rapport de force. Ce qu'ils disent aussi beaucoup, c'est que Trump, il ne faut pas oublier que c'est un homme de l'économie, et que lui va essayer de recréer un rapport de force favorable à l'Occident et aux États-Unis en changeant les données économiques. Et ça va changer par quoi ? Par l'énergie. Et ça vous intéressera sûrement parce que je sais que vous êtes en général assez préoccupé de la question énergétique et de la question écologique. Et lui, je pense, sera prêt à sacrifier les efforts qui ont été faits sur les énergies vertes, etc., pour rétablir un rapport de force dans le domaine de l'énergie. Donc il va relancer la production pétrolière, relancer la production gazière de manière massive pour faire s'effondrer le prix du pétrole et étrangler les Russes, les Iraniens et les Chinois. Voilà. Donc en fait, autant dire qu'il reste une grande question, parce que c'est lui qui tranchera. Mais voilà comment le débat en fait, se situe dans les gens qui réfléchissent pour lui.
Juste un petit mot sur la Chine. Je me permets de mettre un peu mon grain de sel, mais c'est vrai qu'on peut dire quand même que l'administration Biden suit presque pas à pas ce qu'ont fait les républicains en matière de sanctions commerciales, à peu près, enfin, et que finalement, Trump a un petit peu donné le là de la politique américaine vis-à-vis de la Chine, et qu'il y a une sorte de consensus au Congrès entre les deux parties sur la rivalité de long terme avec la Chine, qu'il y a assez peu de gens qui prêchent différemment en disant « non, la Chine, on va leur parler, etc. » Donc on ne sait pas effectivement ce que Trump peut faire parce qu'il a énormément de... Enfin, c'est une girouette, effectivement, et donc il peut très bien faire une visite à Pékin, aller voir Xi Jinping et puis dire, et l'appeler son meilleur ami, et puis il sera très flatté du voyage qu'il aura, et puis deux mois plus tard, il va revenir et puis il va imposer des sanctions commerciales parce qu'il va s'apercevoir que politiquement, donc c'est quand même quelqu'un qui, bon, il a énormément de défauts, mais il parle quand même un peu aux gens et puis il veut parler au peuple, comme tu disais, Laure, et donc il est possible que le retour ce soit, bon, ben voilà, il faut absolument imposer des sanctions parce que on a besoin de recréer des emplois, etc., que c'est un discours qui plaît bien aux gens.
Mais les sanctions, il les a imposées dans son premier mandat. Moi, j'étais à Washington quand il a dit « Je vais négocier avec Xi Jinping et je vais faire un deal en deux temps. » Et il a mis plein de tarifs. Et puis, on a regardé et, bon, objectivement, je ne suis pas sûr que ça ait rétabli le solde commercial américain par rapport aux Chinois. Quand les démocrates sont arrivés au pouvoir, ils ont gardé les tarifs de Trump. Parce que la vérité, alors on peut dire que c'est Trump qui a commencé, à vrai dire, il y a eu une prise de conscience dans les années 2010 que l'entrée de la Chine dans l'OMC ne s'est pas du tout traduite par la démocratisation espérée et qu'au contraire, la Chine a négocié des conditions de participation au commerce international qui lui permettent d'exercer une concurrence totalement déloyale par rapport aux producteurs de démocratie. Notamment, il n'y a aucune transparence par rapport aux entreprises, bon, tout ce qui se passe actuellement dans les conflits commerciaux. Et donc, les démocrates ont exactement le même objectif que les républicains vis-à-vis de la Chine. L'objectif des Américains est assez simple, c'est éviter que la Chine les dépasse. Et le sujet central, c'est la technologie qui va se décliner dans la défense, qui a des conséquences sur l'économie, sur la sécurité. Et donc, quand je parlais avec Laure d'une course aux enchères, en fait, chacun en rajoute, ce qui est quand même un peu risqué. Alors, les démocrates, au début, ont tapé sur la Chine comme les républicains avant, sauf que chacun a eu, et c'est là que la psychologie de Trump entre en ligne de compte, une façon un peu différente de faire. Trump, lui, c'est, comme l'a dit Laure, c'est le deal maker, c'est The Art of the Deal, son grand bouquin, quand il était promoteur immobilier, qu'il était dans les missions The Apprentice. Et donc, lui, il pense qu'il imposera des deals, à tort ou à raison. Hein. Bon, le bilan de son premier mandat, parce qu'il a quand même été président 4 ans déjà, il est, on va dire, mixte. Rappelez-vous, avec le dirigeant de la Corée du Nord, après l'avoir vertement critiqué comme le Little Rocket Man, ils se sont envoyés des belles lettres, ils se sont vus plusieurs fois. Bon, je ne suis pas sûr que la Corée du Nord ait arrêté sa course aux armements. En revanche, il y a un énorme succès de la diplomatie Trump, c'est les accords d'Abraham. Sur l'Iran, je pense que c'est un point de vue personnel, hein, en détruisant le JCPOA, L'administration républicaine a fait une grosse bourde. Pourtant, la France avait été, en 2015, le pays qui avait dit que cet accord n'était pas assez sévère. Oui, mais il existait. Et en enlevant tout cadre. Ah, donc, sur l'Iran, on peut discuter. Mais pour revenir aux démocrates, les démocrates, toutes les semaines, ils en rajoutent des mesures contre la Chine. Toutes les semaines. Et c'est à celui qui sera le plus dur. Bon, enfin, je pourrais revenir aussi sur les autres sujets de politique étrangère, mais je pense que maintenant, il faut.
On va peut-être donner la parole à la salle, comme on dit. Donc, vous avez. Quelqu'un avec un micro, donc allez-y, levez vos mains et puis on va essayer de prendre le plus de questions possible, sachant qu'on ne voudrait pas terminer trop tard quand même.
Bonjour, j'avais une question. Comment vous expliquez que les Américains continuent à idolâtrer Trump malgré son implication dans l'assaut du Capitole ? Ses condamnations pour agression sexuelle, falsification, etc. Alors qu'en France, on a des personnages comme François Fillon qui ont été évincés de la vie politique pour beaucoup moins que ça.
Alors, je vous propose, on va peut-être prendre trois questions à la fois pour gagner du temps. Alors, une deuxième question, voilà.
Bonjour. Une question d'ordre diplomatique. Que pensez-vous des propos ultra ridiculisants de Trump à l'égard de la France et de Macron? Je ne sais pas si vous avez entendu.
De quoi vous parlez là, précisément?
De ses propos à propos de la souveraineté de la France. Il avait donné quelques propos très très réducteurs.
Bon, ok. Bon, écoutez, on va essayer de s'en souvenir, mais on s'en souvient
pas. À propos de, par exemple, la femme de Macron. D'une, et de deux, à propos des accords commerciaux entre la France et les États-Unis sur les droits de douane, par exemple. Donald Trump disait que Macron était obligé de réduire les droits de douane pour pouvoir avoir de bonnes relations avec les États-Unis.
Ok, merci. Troisième question, oui.
Bonjour, merci pour le débat et pour votre intervention. Moi, c'est une question un peu plus personnelle parce que je m'étais questionné sur les travaux en diplomatie et parce que j'ai l'impression que le Quai d'Orsay, il n'a plus trop d'influence dans le monde et dans les affaires mondiales. On le voit avec les crises mondiales en Palestine ou avec le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël, où on voit que la France et même l'Union européenne n'a aucun poids. J'aurais aimé savoir si vous pensez que la diplomatie et même plus spécifiquement la diplomatie française a encore un rôle à jouer dans le monde. Et donc, en imaginant que M. Étienne vous répondrait par l'affirmative, j'aimerais aussi savoir quel est ce rôle. Merci.
Merci. Bon, on va peut-être démarrer sur les États-Unis, puis après, M. Étienne va pouvoir répondre à cette question brillamment.
Essayer.
On commence par l'or, peut-être. Oui.
Oui, donc sur la question comment expliquer que les Américains idolâtrent Trump après le 6 janvier et toutes les autres les agressions sexuelles, etc., les accusations, alors c'est vraiment, votre question, elle est centrale, parce que ce qui se passe, c'est que le fait qu'il continue à soutenir Trump envers et contre tout montre d'abord qu'ils sont dans un état de qu'ils ne décolèrent pas. Ils ne décolèrent pas. Et donc, ils continuent d'estimer que la colère qu'ils veulent exprimer contre le système, donc là, voilà, est plus importante que les défauts, voire la catastrophe qu'aurait pu être le 6 janvier. Et j'ajouterai sur l'histoire du 6 janvier que les Américains... vous avez deux tiers, en fait, de l'électorat républicain qui estiment que ces élections ont été frauduleuses. Et donc, ça montre qu'il y a une véritable rupture de confiance entre cette population qui pense ça et le système. C'est-à-dire, si vous avez deux tiers des républicains qui en sont venus à penser qu'il y avait eu fraude et qu'en réalité Biden n'avait pas été élu, c'est quand même extrêmement grave. Alors vous pouvez dire c'est parce qu'ils ont écouté Trump qui les a désinformés. Oui, mais quand même, c'est quand même des gens qui vivent dans un pays démocratique, etc. Donc derrière, en fait, cette capacité à rester avec Trump, à le croire, à le suivre là-dessus, il y a une vraie colère. Et cette colère, elle est évidemment... Elle commence en 2015, 2016, enfin, on la voit se manifester, mais elle est aussi due à la manière dont Trump a été traité pendant son mandat. C'est-à-dire que j'ai dit au début qu'il y avait eu une sorte de couple hystérique qui s'était constitué sur la scène politique, et je continue à le dire, c'est-à-dire que vous avez Trump, qui est un des protagonistes de ce couple, et l'autre couple, c'est l'opposition. Et en fait, ils ont passé le temps à se taper sur la figure de manière, je le dis de manière figurée, mais à s'accuser, à s'insulter. Il a été quand même immédiatement présenté comme un personnage illégitime, alors qu'il avait quand même été élu. On l'a accusé d'être un agent de la Russie. Il y a eu énormément de choses qui n'ont finalement pas été... en tout cas prouvé, même si il y a des choses troublantes dans ses liens avec l'oligarchie, une certaine partie en tout cas du monde assez trouble des affaires russes, etc. Il n'y a jamais eu aucune preuve en fait du fait que c'était un agent, alors qu'il a été présenté comme tel. Et donc tous ces éléments-là ont fait que les gens ont dit, on a élu quelqu'un, on nous dit qu'il est illégitime, donc nous allons le soutenir. Et ça a scellé, je pense en fait que ça a scellé un pacte absolument incroyable et assez effrayant entre cet électorat et lui. Et si vous voulez, c'est à la vie, à la mort. C'est un phénomène qui dépasse aussi une forme de rationalité. Et je dirais aussi qu'il y a un élément important, c'est que ce 6 octobre, ce qui s'est passé, vous avez en fait une partie de l'électorat a quitté le monde rationnel aussi. C'est-à-dire, vous avez, et ça c'est lié aussi aux réseaux sociaux, à la désinformation. Alors je dirais d'ailleurs qu'il y a de désinformation à gauche comme à droite. Mais vous avez, moi je le vois en tant que journaliste, quand j'ai des échanges avec des gens sur Twitter, etc., je m'aperçois qu'il y a des pans entiers du corps politique français, mais c'est le cas aussi aux États-Unis, qui vivent dans un monde complètement irréel et qui donc ont fait sécession. Ils sont partis ailleurs. Et quand vous essayez de les rattraper avec des raisonnements que vous pensez être rationnels ou confortés par des faits, etc., vous n'arrivez pas à les convaincre. Et je pense que ça explique ce que je vous dites. Je pense que sur l'histoire des agressions sexuelles, il y a eu aussi le fait que quand même, il y a eu une utilisation très politique de la justice qui a été menée par les démocrates contre Trump, et que ça a joué en sa faveur, parce qu'ils ont essayé de détruire politiquement par le système judiciaire au lieu de le faire à la loyale sur la scène politique, si vous voulez, dans la campagne électorale. Et donc, toutes ces procès qu'il y a eu avant l'élection. Et ça, évidemment, aussi, ça a complètement joué à contrario, parce que vous vous souvenez qu'au moment où il est condamné sous 13 chefs d'accusation, il a sa popularité monte de plusieurs pourcents et il arrive à rassembler, je crois, 50 millions de dollars en une ou deux nuits, enfin quelque chose d'absolument stupéfiant.
On pourrait ajouter aussi la victimisation, les tentatives d'assassinat qui sont en fait qui le font dans les sondages et son public qui continue à le soutenir et qui dit voilà. Il faut soutenir Trump, il nous représente, enfin voilà, le côté un peu porte-drapeau des 100 grades, alors qu'en fait, lui-même est un milliardaire. Philippe, quelques mots sur le rôle de l'Europe, peut-être la diplomatie européenne dans ce concert des nations.
Moi, j'ai vécu ces deux Amériques, parce que quand on est à Washington, on vit dans la bulle. Vous savez quel pourcentage... Biden a eu à Washington, lors de l'élection présidentielle, 95%. Et donc, si vous sortez de Washington, vous n'avez pas à aller loin. En Virginie, dans le Maryland, à quelques dizaines de kilomètres, vous tombez sur le Trump World. Et moi, ça m'est arrivé de rencontrer des partisans de Trump. C'est les deux Amériques. C'est très frappant. C'est des gens... qui vont absolument pas croire que Trump a fait telle et telle chose. ils vont dire qu'il est persécuté par le système. C'est logique, puisqu'il y a un système, il est persécuté, et ça les renforce. Moi, j'ai été très frappé. C'est difficile d'aller pour un diplomate d'aller à la rencontre. C'est déjà pas facile pour un journaliste, mais c'est plus facile, je crois, pour les journalistes. Mais
c'est très simple. Honnêtement, c'est très facile.
Oui.
Ils sont extrêmement ouverts, ils veulent parler.
Et pour les diplomates qui, eux, vivent, leur boulot, c'est l'administration, eh ben, il faut sortir. Et c'est vraiment une autre Amérique. Et moi, j'ai été très frappé des contacts que j'ai eus avec cette autre Amérique. Et il faut les entendre pour comprendre les États-Unis et pour comprendre Trump. Et ça, en Europe et en France, comme dans le reste de l'Europe, et j'en viens à la question sur l'Europe, on ne comprend pas trop ce phénomène. Or, il faut le prendre en compte. Bon, moi, j'étais obligé, j'ai travaillé avec l'administration Trump pendant 4 ans, depuis Paris et à Washington. Je veux dire, c'est un fait. Et les relations entre les deux présidents, Trump et Macron, moi, je les ai vécues, elles n'étaient pas mauvaises. Moi, j'ai organisé... Trump est venu combien de fois en France ? Il est venu pour le 14 juillet 2017, centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Il est revenu le 11 novembre 2018. Il est venu pour le 75e anniversaire du débarquement de Normandie. Il est venu pour le sommet du G7. Bon. On a fait 4 visites de Trump en France pendant son mandat. Et il y a eu une visite d'État du président Macron. Et effectivement, les deux premières dames, je les ai vues. Enfin, les deux couples présidentiels se sont rencontrés. Voilà. Après, l'expression de Trump, notamment sur les aspects, les femmes, hein, bon, c'est parfois, genre, je ne sais pas ce s'il a dit sur Mme Macron, je ne m'en souviens pas, mais bon. Par contre, sur les droits de douane, là, les choses sont très claires. Et je n'ai pas très bien compris ce qu'on disait de ce qu'il avait dit sur les droits de douane français, mais il y a 3 pays excédentaires en Europe sur les États-Unis. Ce n'est pas la France. Vous savez quels sont ces 3 pays ? L'Allemagne, bien sûr. Les 2 autres pays très excédentaires en commerce dans l'Union européenne sont les États-Unis, c'est l'Italie et l'Irlande. Voilà. Donc, il y a un truc que Trump déteste, c'est les déficits commerciaux. Mais le problème de la France et des autres Européens, et, enfin, ce n'est pas un problème, c'est la situation, c'est que nous sommes tous ensemble en union douanière au sein de l'Union européenne. Et que donc, le déficit, il se juge sur l'ensemble de l'Union européenne États-Unis, et pas Union européenne France ou États-Unis-France ou États-Unis-Allemagne. Mais les trois plus gros excédents commerciaux depuis l'Union européenne sur les États-Unis, c'est pas la France. Hein. Les Américains prétendent qu'il y a parfois un petit excédent. Nous, on est, d'après nos statistiques, plutôt en déficit vis-à-vis des Américains. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Ce qui s'est passé pendant le mandat de Trump, entre 2016 et 2020, c'est qu'il nous a mis des taxes sur l'acier et l'aluminium, à cause du conflit Airbus-Boeing. Et donc, on a dû défendre notre vin, par exemple. Parce que le vin français était taxé, le vin espagnol était taxé, pays Airbus. Le vin italien n'était pas taxé parce que c'est pas un pays Airbus. Vous voyez, donc il y avait même des sujets différents. Mais ça a été très dur parce que Trump, il n'aime pas l'Union européenne. Il voit pas ce que c'est que l'Union européenne. Il comprend pas que des pays puissent se mettre ensemble pour défendre leurs intérêts communs. Et donc, c'est vrai que parfois, il nous recevait en nous disant... qu'est-ce que c'est que ces pénalités que l'Europe met ? Vous savez, il y avait la commissaire à la concurrence à l'époque qui finit son deuxième mandat de commissaire ou son troisième, Margaret Vestager, qui mettait des grandes pénalités sur les Google et autres, les GAFAM. Et Trump disait, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Moi, je les déteste, ces entreprises. Mais c'est à moi, elles sont américaines, vous n'avez pas le droit. Et donc, si Trump... revient à la Maison-Blanche, il faut quand même s'attendre à de vraies difficultés de ce point de vue-là. Parce que Trump, il a dit qu'il allait remettre des taxes de 10 à 20%, pas des taxes, des tarifs, enfin des droits de douane supplémentaires sur tous les pays, y compris les alliés des États-Unis, pour 60% sur la Chine, mais tout le monde entier 10 à 20%. Et puis entre-temps, l'Europe, elle a commencé à réguler. Elle n'a pas seulement l'impôt sur les services numériques dans certains pays européens qui ne s'est pas réglé cette affaire. L'affaire Airbus-Boeing n'est pas réglée. L'Europe a adopté des lois sur la modération des contenus sur Internet, ça s'appelle le DSA, et contre les positions monopolistiques sur Internet, ça s'appelle le DMA. On a adopté des règles sur la soutenabilité, sur la déforestation. On a adopté des règles sur le reporting en matière de développement durable. Ah ben ça va en faire des sujets de conversation entre les États-Unis et l'Europe. Et donc, moi, sur l'Europe, j'ai une remarque très simple, et pour la France et les autres. La France porte ce discours de souveraineté depuis longtemps et l'a fait passer maintenant. L'idée de souveraineté européenne, elle n'est pas encore très bien comprise, mais elle est acceptée dans l'Union européenne. Quel que soit le président élu aux États-Unis, l'Europe a des choses à faire. On a eu le rapport Draghi, c'est clair. On n'est pas d'accord entre Européens sur comment faire, notamment le financement. Mais on sait que... Et ça, ça ne dépend pas des États-Unis. Et les nouveaux démocrates, comme les nouveaux républicains que je connais, j'ai rencontré certains de ceux, je suis sûr que Laure a rencontré cet été, dans les jeunes, les gens qui montent au sein du Parti républicain. Mais ils disent aux Européens, mais arrêtez de nous parler de vos affaires de souveraineté, de défense. Nous, on veut que vous payiez plus, mais organisez-vous, faites ce que vous avez envie de faire, mais faites-le vraiment. Et nous, ça nous arrange plutôt parce que nous, on a une priorité qui est l'Indo-Pacifique. Alors, c'est la réponse à la dernière question sur le Quai d'Orsay. Moi, je crois qu'il y a trois niveaux pour l'importance d'un pays dans le monde comme la France. C'est premièrement, ça c'est essentiel, comment il se porte en interne, comment sa prospérité, ses succès économiques, mais aussi la cohésion de sa société. Ça, c'est un élément essentiel d'influence dans le monde et sa capacité d'innovation dans tous les domaines. Le troisième niveau, c'est la capacité de proposer des choses au monde. Et je peux vous dire que la France a gardé cette capacité. Sur les grands sujets globaux, le pays qui vient faire des propositions pour lutter contre l'endettement des pays d'Afrique, pour lutter pour la biodiversité, contre le changement, les dérèglements du climat, ça vient beaucoup de France et ça continue à venir de France. Mais entre les deux, pour la France, il y a un niveau essentiel, c'est le niveau européen. Et donc, c'est à travers la combinaison entre ces trois niveaux que s'exerce, je pense, toujours l'influence de la France, y compris à travers son influence dans l'Union européenne.
Merci beaucoup. Bon, je pense que... Est-ce qu'il y a encore deux petites questions? Oui. Alors, très rapidement. Hein. Questions rapides et réponses rapides. Allez-y.
Ça marche. Ah. Bonjour madame, bonjour messieurs. Monsieur Étienne, vous étiez ambassadeur aux États-Unis en 2021 lors du pacte AUKUS et de la rupture du contrat des sous-marins. Je voudrais savoir comment est-ce qu'en tant qu'ambassadeur, on fait lorsqu'il y a un refroidissement des relations pour tenter que ça aille mieux ou peut-être pour y faire face. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre quotidien et dans votre travail? Merci.
Très bien. Et dernière question. La jeune femme là? Oui, bon, tant pis. Désolé.
Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir si Kamala Harris, elle était peut-être aujourd'hui trop à gauche. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt se poser la question aujourd'hui, est-ce que le débat politique, il ne se décentre pas inévitablement plutôt vers la droite? Et que c'est pour ça que Kamala Harris, qui aujourd'hui est plutôt dans la mouvance centriste du Parti démocrate, semble être déjà trop à gauche.
Alors, je propose que peut-être, Laure, tu prennes la question qui vient d'être posée et que Philippe réponde sur AUKUS, si tu veux bien. Oui, merci.
Oui, merci beaucoup pour votre question. D'une certaine manière, vous n'avez pas tort, mais c'est en fait un reflet de ce qu'est la société américaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parti, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le parti démocrate se retrouve, challenger, enfin le mot est américain, pardonnez-moi, mais se retrouve en fait mis en demeure par une partie en fait de l'électorat démocrate. Alors on avait dit déjà, ça a été déjà le cas dans ces fameux états swing, vous savez, ces démocrates donc plutôt blancs, etc., qui sont partis vers le parti républicain parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans le parti de John F. Kennedy. Moi, en fait, j'en ai rencontré plein. Ils me disaient, mais nous, on était démocrates, mais où est JF Kennedy dans le parti démocrate? Donc, ils ne se reconnaissent plus. Mais il y a aussi maintenant, comme je vous le disais, une partie importante, notamment des minorités, ce qui est quand même très intéressant, qui aussi freinent, pensent que ça va trop loin, en fait, et qui veulent, et qui, en fait, sont en train de basculer. Et ça, c'est la grande nouvelle. Vous savez que, en fait, quand je suis arrivée aux États-Unis, moi je suis arrivée en 2008, Il y avait plein d'universitaires ultra savants qui disaient de toute façon maintenant, donc c'était Obama qui était arrivé, il disait il n'y aura plus jamais de président républicain. Qui ont écrit des articles énormes. C'était la nouvelle, le refrain en fait qu'on entendait dans la classe politique, c'était et intellectuelle, il n'y aura plus jamais de président républicain parce que l'Amérique est en train de changer sur le plan démographique et que nécessairement les nouveaux arrivants voteront pour le parti démocrate. Donc il y avait une approche qui était presque, je dirais, un peu mécanique de ce qu'est le corps social, où les gens, quelle que soit leur couleur, etc., peuvent avoir des opinions extrêmement différentes. Et ce qu'on a vu au contraire apparaître, c'est cette espèce de surgissement de quelque chose qui a coupé, en fait, qui a déplacé complètement les lignes de partage entre la droite et la gauche. Et donc, vous avez d'une certaine manière raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un parti démocrate dans ses élites, je dirais aussi dans sa jeunesse étudiante, qui est parti très loin à gauche. Mais par exemple, quand vous regardez la jeunesse, qui est quand même l'avenir, donc c'est votre génération, vous voyez en fait une distinction entre ceux qui vont à l'université, qui eux sont sur ces positions très à gauche, très identitaristes, et vous avez dessous une jeunesse plus populaire qui, elle, n'adhère pas, en fait, et fait sécession et s'en va plus vers la droite. Mais bien sûr que tout ça n'est pas joué. C'est-à-dire, je ne vous dis pas que c'est sûr que Trump va gagner. Je pense que ça reste ouvert, qu'il y a une vraie bataille et qu'il y a une vraie... qu'en fait, tout se joue pour ou contre Trump. C'est-à-dire que Kamala Harris, je ne suis pas sûre que sa personnalité aujourd'hui soit un facteur d'adhésion fort. C'est-à-dire que c'est plutôt... Elle dit, écoutez, franchement, face à ce type, choisissez-moi. Moi, je suis au moins de bon sens. C'est ça qu'elle joue, en fait, plus. Alors que lui... Lui, les gens soit le détestent et en ont peur, soit adhèrent ou se résolvent à être avec lui parce qu'ils ne veulent pas de cette radicalisation en fait qu'il y a eu à gauche. Voilà.
En tous les cas, une déception des deux grands partis traditionnels avec un système électoral qui fait que les électeurs ne se retrouvent pas soit dans le Parti démocrate, dans le Parti républicain de l'ancien temps, disons. Le mot de la fin, monsieur l'ambassadeur, peut-être un mot sur le locus.
Sur AUKUS, il faut quand même savoir, enfin vous le savez, que ça ne s'est pas passé sous l'administration Trump, ça s'est passé sous l'administration Biden. Donc il faut quand même, ça relativise aussi les choses par rapport à nos relations. Et ça, je m'en souviens bien, parce que comme vous l'avez dit, ça a pas mal changé. Je suis le seul ambassadeur de France aux États-Unis de toute l'histoire des relations franco-américaines à avoir été rappelé pour consultation à Paris. C'est quelque chose quand même. Alors c'est une expérience. Je peux vous dire que sur le moment, ça m'a pas du tout fait plaisir, mais après coup, ça a été super intéressant de voir comment on a dû gérer cette affaire. Et j'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais bon. Donc le mot de la fin, c'est ce que je vous ai dit avant. Pour moi, c'est on est fasciné par cette élection américaine et on a raison parce qu'elle a d'énormes conséquences pour nous. Mais on ne doit pas regarder et avoir le visage rivé sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. On doit d'abord regarder nous-mêmes ce qu'on doit faire. C'est ça le plus important. Et on peut, je crois, développer nos politiques, notamment de souveraineté. On peut essayer d'éviter de prendre trop de retard et même de rattraper. On peut rattraper notre retard technologique. On peut construire une défense, continuer de construire une défense solide face aux menaces de plus en plus nombreuses qui, comme le rappelait Laure au début, pèsent sur nous, en restant très proche des Américains, quel que soit le président qu'ils élisent, mais en faisant notre part du boulot.
Merci mille fois à tous les deux. Et on espère que vous allez continuer à vous intéresser à la géopolitique.